Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Kifim. Aujourd'hui, nous allons vous parler jeux de société. Et pour ce faire, j'ai avec moi Chenin,
salut.
Docteur Mad Geek.
Hello.
Deux habitués et une nouvelle, Sarah.
Bonjour.
Dans le pseudo est.
C'est stéréo.
C'est stéréo, c'est vrai. Ouais. Et moi-même, ATLZA. Et nous allons vous parler de.
Jeux de société.
Et en particulier de.
Je vais parler de Watergate.
Tu vas parler de.
Moi, de Little Town.
Et de 50 missions.
Et je terminerai par Maracaibo. Les plus gros pour la fin. Petit non, tour de table, pas. Toujours, histoire de. Un petit jeu comme ça en ce moment que vous n'avez pas nous présenté mais que vous conseillez.
Voilà, alors depuis plusieurs mois, je teste beaucoup de jeux, donc je peux citer des jeux que j'ai testés qu'une fois et qui m'ont pas tellement plu. J'ai testé Demeter pour une poignée de meeples. Nida Velir, qu'on sort beaucoup au bureau, qui est quand même très sympa. L'île des chats, un Kickstarter, un gros Kickstarter récent.
Ouais. Petite bourgade.
Et Hospital Dice.
Ils vont faire 12 000 sinon. Ok.
Hospital Dice qui est quand même tout donc, à fait dans la thématique récente.
Les, hein, les premiers plutôt pas et les derniers plutôt oui.
Plutôt oui. Oui.
D'accord.
Voilà.
Ok. Glenn ?
Ouais, moi j'ai testé avec Chenin Hospital Dice. J'étais agréablement surpris. Là en ce moment, je joue un petit peu à Conspiracy, qui est un jeu, un petit casual game.
Abyss.
Abyss Conspiracy.
Ouais, super simple, qui me plaît bien. Et puis, on revient assez souvent, assez régulièrement au Roll and Write, là, très futé, vraiment très futé. Et en ce moment, je cherche Cartographers, mais il est en rupture de stock partout.
C'est normal.
Et voilà, et apparemment ils font ça assez souvent.
C'est un trafin et ils ont très peu de stock.
Voilà, donc j'espère pouvoir bientôt l'acquérir.
Ça va ?
Moi aussi également pas mal les flip and write, les draft and write et tout ce qui se write. Avec Boomerang Australia, qui est un petit jeu de voyage avec un draft de cartes. Et moi, à l'inverse de Chenin, Demeter, que je sors beaucoup en ce moment.
Alors, je dis pas de mal de Demeter, hein, mais comme je connais beaucoup Welcome, j'ai trouvé que ça faisait un peu doublon.
Moi, je partage son avis.
C'est la première partie, elle est toujours un peu comme ça. La première partie, elle donne ce sentiment-là, mais en fait, il y a beaucoup plus au deuxième, enfin, aux parties suivantes. Ça va un peu plus loin, il y a plus de stratégie à mettre en place que dans Welcome, et du coup je pense qu'il faut y rejouer pour pouvoir voir un peu les différentes stratégies qu'on peut mettre en place.
C'est comme toujours, de toute façon avant deux parties tu peux pas juger un jeu, faut jouer deux fois. Ok, bah de mon côté The Crew, qui est un des gros cartons du moment, que j'ai eu le plaisir d'acheter et qui sort facilement et beaucoup. Et puis j'avais envie de citer Rhythm and Replay Boulet, qui est une réédition de Rhythm and Replay.
Après, c'est Rhythm and Boulet.
Non,
c'est Rhythm and. Ah ouais, c'est Rhythm and Boulet, t'as raison.
C'est Rhythm and Boulet Replay, j'ai mis les mots dans le mauvais sens. Qui est une réédition d'un jeu qui existait déjà, mais qui s'appuie sur l'angle des signes que je trouve super inclusif et super pour apprendre aux enfants, notamment la langue des signes. Donc, un petit coup de cœur pour un jeu auquel je joue malheureusement pas beaucoup. Surtout que j'ai pas de rythme du tout. Mais une super idée, donc qui vaut le coup d'être cité. Ok. Christophe, tu nous présentes en détail donc...
Watergate. Alors, Watergate, tout le monde connaît l'histoire de Watergate, ou pas. En fait, on connaît tous le nom Watergate, le scandale du Watergate, mais on ne connaît pas forcément très bien l'histoire. L'intérêt de ce jeu, justement, un des grands intérêts de ce jeu, c'est que l'histoire va être détaillée dans les règles. La moitié du livret de règles est là pour nous expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai pas fini de le lire. Alors, pour la description du jeu, c'est un jeu édité par Yellow, qui en général font des très bons jeux, très bon matériel. C'est un jeu pour deux joueurs qui se joue en 30 minutes maximum. C'est un créneau intéressant à prendre. Les jeux de deux joueurs, c'est toujours intéressant d'avoir cette limitation. On est assez nombreux parfois à vouloir sortir un jeu... pour deux, et qui va en plus pas être trop long. Donc là, 30 minutes, on s'y tient. Il n'y a pas d'erreur sur la durée. Et c'est un Mathias, je vais dire, c'est un jeu de Mathias Kramer, que je ne connaissais pas très bien, qui a déjà fait un succès, c'était Glenmore. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit peu le pitch tel qu'il est écrit rapidement. En juin 1972, cinq hommes sont arrêtés dans le bâtiment du Watergate à Washington. ce qui ressemble à une tentative de cambriolage de troisième ordre au siège du Comité national démocrate incite les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein à ouvrir une enquête approfondie. Deux ans plus tard, en 1974, le président Nixon démissionne de son poste pour éviter la destitution. D'ailleurs, c'est le seul président américain à avoir démissionné. Voilà, voilà pour le petit pitch. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu du jeu, rapidement. C'est un jeu asymétrique. C'est assez rare. Moi, je ne connais pas beaucoup de jeux asymétriques. C'est asymétrique dans le sens où soit on prend le rôle de l'administration Nixon, soit on joue la presse. En gros, c'est le bon contre les méchants. C'est un peu l'intérêt de ce jeu, c'est, je trouve, le sel de ce jeu, c'est ce côté bras de fer. On a vraiment un bras de fer, un duel entre deux forces qui ont des tactiques différentes. Et on a aussi des moyens de gagner différentes. Pour l'administration Nixon, pour gagner, il faut retourner l'opinion, pour résumer. Et pour la presse, pour gagner, il faut réussir à réunir, à faire le lien entre deux informateurs et Nixon. En général, j'ai constaté que c'était plus difficile de jouer Nixon. Après, c'est peut-être aussi à cause de la courbe d'apprentissage. Peut-être que c'est plus difficile, justement, d'équilibrer Nixon. Dans la mécanique de jeu, en fait, on va sortir des cartes qui vont être des cartes qui vont faire fonctionner cette mécanique de tir à la corde, où on essaye de faire venir vers soi des éléments pour gagner. On peut aussi jouer ces cartes en événement, mais quand on les joue en événement, en général, on ne peut plus les jouer plus tard. On les perd de la partie. C'est vraiment une mécanique intéressante parce qu'à chaque fois, on doit choisir si on va garder son pouvoir pour plus tard, pour sortir au dernier moment un super pouvoir qui va faire un coup de théâtre. Et en une demi-heure, on va en avoir souvent pas mal des coups de théâtre. Alors, on a fait une partie, d'ailleurs, Dr. Mad Geek, on a fait une partie où on n'a pas eu de coup de théâtre. Ça a été assez plié rapidement. Hélas, mais la plupart du temps, les parties que je fais sont assez tendues jusqu'à la fin. Il arrive parfois que quelqu'un croit gagner, il est sûr, c'est son dernier tour, et puis finalement l'autre a réservé un petit coup fourré au dernier moment. Voilà, donc pour mon avis sur ce jeu, moi j'aime beaucoup la mécanique de ce jeu. J'aime bien la tension que ça rend. On est un peu sur un jeu d'enfoiré, on peut pas jouer à ce jeu peut-être avec n'importe qui. Et je connaissais pas cette mécanique de tir à la corde. On m'a expliqué que c'était pas nouveau, qu'on avait d'autres jeux de ce genre. J'aime bien le côté de l'effet de surprise, des événements, des cartes qu'on va réussir à tirer. On a plein de stratégies différentes pour réussir son coup. Mais il y a un mais. Je vais quand même donner mon intuition. Alors, je vais dire, parce que je l'ai pas encore beaucoup constaté, mais une intuition négative. Je pense quand même que c'est un jeu qui aura tendance à se répéter. On va pas non plus... Enfin, on risque... à un moment de se lasser, peut-être qu'un jour ils vont sortir des nouvelles cartes, des nouveaux événements, mais là en l'état, je pense que je vois bien comme jeu d'été ou facile à sortir avec le café, mais pas forcément un jeu auquel je jouerai encore dans 2 ans. Et aussi, on a une grande place de hasard, ou alors justement, c'est peut-être parce qu'il faut encore apprendre à contrer le hasard. Mais cette place du hasard est quand même pour le moins encore assez présente.
Pour l'avoir essayé avec toi, effectivement, sur l'aspect rejouabilité, moi je le sentirais limité aussi. J'aurais vraiment, je pense qu'au bout de plusieurs parties, tu as fait un peu le tour. Mais bon, je ne suis pas non plus un grand fan de ce style de jeu à la base, donc peut-être que mon avis est un petit peu biaisé.
Mais il est très thématique, ça c'est bien.
Ça oui, mais par contre, moi qui n'aime pas le hasard, je n'ai pas été particulièrement gêné dans la partie. Par une emprise exceptionnelle du hasard ou l'impression de vraiment pas pouvoir maîtriser mon jeu parce que je pouvais rien faire. Alors oui, il y a un moment où effectivement mes cartes se sont vraiment retrouvées, je sais pas si tu te rappelles, séparées où d'un côté j'avais, je sais plus, genre tous mes événements et de l'autre côté tous mes non-événements.
Oui, oui.
Et du coup ça m'a rythmé mon jeu d'une certaine façon, mais ça m'a pas bloqué ni gêné en tout cas.
Alors, j'ai oublié de dire quelque chose pour bien décrire le jeu, parce que là on a l'impression que c'est juste un jeu de cartes. On a quand même un petit plateau de jeu, et le plateau de jeu, je trouve qu'il rend bien la thématique parce qu'il représente un tableau d'enquêteur sur lequel on va accrocher les preuves, les indices,
faire les photos avec les punaises et les
voilà.
Fils,
et ça je trouve que c'est une très bonne idée.
Alors juste un point sur la mécanique quand même, il y a une similitude, ça m'étonne un petit peu que tu la fasses pas, c'est quand même, il y a une parentalité, une filiation avec Mr. Jack. C'est quand même un contre un jeu d'enquête, et,
c'est pas faux.
Et deux mécanismes de jeu différents. Donc,
mais je le sens moins tendu, Mr. Jack.
Moi, j'ai pas beaucoup joué, mais je veux dire, enfin, il y a une filiation claire entre l'un et l'autre.
Alors, Dr. Mad Geek, Qu'est-ce que tu en...
Moi, j'ai trouvé que ce jeu, il excellait dans une chose, c'était la narration, le storytelling. Moi, c'est un truc que j'adore dans les jeux. Et là, le propos rencontre la mécanique, quoi. C'est, ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, sur le plateau, c'est, on a tous l'image là, du plan machiavélique que tu relis avec des petits fils de laine rouge entre des punaises, machin. Donc, c'est, ça, c'est un peu ça que tu as sous les yeux. Et au fur et à mesure que l'avance en quête, que toi, t'es la presse ou Nixon, bah ça se remplit ou pas. Donc, il y a une vraie façon t'as vraiment l'impression que le jeu, il te prend dans une histoire. Et j'ai trouvé aussi que les cartes qui sortaient, quand tu prends un peu le temps de les lire, bah, il y a des vrais twists, quoi. C'est-à-dire que, bam, il y a un scoop qui sort, de l'autre côté, bam, le mec, il achète la presse pour faire ci, de l'autre côté, machin. Et donc, t'as ce tir à la corde ou ce jeu de ping-pong, là. Je pense que il a été vécu comme ça sur quelques années pendant l'affaire Nixon. Et à ce titre, je trouve que ce jeu, il a réussi un truc incroyable de faire rencontrer voilà, le ludisme et la réalité. Quoi. Je trouve que c'est super bien foutu.
Il faut prendre le temps de lire les cartes. Moi, j'ai tendance à jouer plus le coup que la narration. Et thématiquement, on voit bien qu'il est très fort, mais n'ayant pas lu les cartes, moi j'ai pas cette sensation de revirement ou autre.
Et Sarah, tu connais bien le jeu ?
Moi j'ai fait plusieurs parties aussi, et je suis un peu d'accord avec tous les avis. C'est vrai que la réalité dans le jeu, je trouve que c'est hyper intéressant. On peut lire l'histoire, comprendre l'histoire, ou on peut jouer juste la mécanique du jeu, c'est au choix. Mais il y a cette thématique qui est là et qu'on peut pas nier. Moi, j'ai quand même été un peu victime du hasard sur plusieurs parties où la carte ne sortait pas, ou à l'inverse, que ça m'avantageait. Moi, je trouve la rejouabilité intéressante parce qu'on a deux rôles différents. Donc déjà, pour maîtriser les deux rôles, c'est assez difficile. Donc je pense qu'il y a du temps un petit peu d'apprentissage et de maîtrise. Mais c'est vrai que le hasard, je trouve, moi, m'a un peu impacté. C'est un peu le reproche que je ferais. Sinon, je trouve que c'est un très bon jeu et en tout cas, j'ai encore envie d'y jouer pour l'instant.
Ouais, moi je suis d'accord, j'ai pas rebondi sur le truc du hasard, mais j'ai trouvé ma victoire assez facile. Ouais.
Alors que moi, non. On s'est bien battu, donc pour aller jusqu'à la. Enfin, j'ai gagné aussi. Mais
là, on est vraiment typiquement sur le jeu où il faut avoir fait plusieurs parties.
D'accord.
Parce que je pense que, comme disait Jena, on peut comprendre et peut-être apprendre à contrer certaines cartes si on connaît bien son rôle.
D'accord.
Mais moi, je m'entraîne contre des ados, donc c'est un peu plus facile.
Ok, bah de toute façon, déjà on l'a tous essayé.
Moi je mettrais un 8.
Il nous a tous plu, hein, je pense. Bah moi j'attends la deuxième partie pour le noter, j'attends toujours la deuxième partie.
Pareil.
Ouais, moi je serais sur un bon 9 même.
D'accord.
Je pense que ça pourrait, enfin pour quelqu'un qui aime beaucoup le jeu thématique et qui en plus apprécierait cette histoire là, ouais, ça peut carrément aller chercher un 9 parce qu'il est à part dans son style. Après, pour quelqu'un qui est plus dans le mécanisme et autres, effectivement, la note redescendra peut-être un petit peu.
Après, j'aurais envie de récompenser aussi l'écriture, quoi. Récompenser.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il peut aller chercher un 9, je pense. Je comprendrais qu'on lui mette 9. Ouais. Bon. Ok, merci Chenin pour cette présentation de Watergate. Glenn, c'est ton tour.
Et ouais, je vais vous parler de Little Town de Yellow, qui m'a été prêté par Chenin. Bon, c'est un jeu de placement de petits personnages, je sais plus comment on appelle ça.
Des meeples.
D'ouvriers.
Voilà, d'ouvriers. Il y a un ou deux trucs que j'ai trouvé plutôt cool. Donc ça se joue entre 2 et 4 joueurs, ils annoncent 30 minutes par partie à partir de 10 ans. Bon, clairement, en fonction de l'ouverture. Bon, moi j'aime bien parler de jeux où on peut jouer avec les enfants. Bon, à partir de 8 ans, tu peux jouer si t'es un petit peu habitué au jeu du genre. Donc j'ai assez bien aimé. Donc voilà, soit tu poses un ouvrier, soit tu décides de construire un bâtiment. Sachant que tu es limité et un ouvrier ne peut pas faire plusieurs choses. Quoi. Donc soit tu décides de le jouer pour aller récolter ce qui se passe, soit tu décides de le jouer pour construire quelque chose. Là où j'ai trouvé ça assez cool, sur leur petit plateau mignon, bon, les illustrations sont sympas, ça casse pas des briques, hein. Clairement tu as l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois.
Et même illustratrice que Hospital Days.
Voilà, bon, bah, mais par contre sur Hospital, t'as l'impression d'avoir moins vu ça. Mais c'est aussi l'univers, quoi. Là, ils sont dans un univers un peu médiéval, cathédrale par-ci, truc par-là. Bon, bah, clairement, t'as vu ça 1000 fois. Là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est dans le gameplay. C'est dans le fait de toujours devoir faire un choix. À quel moment est-ce que tu construis, à quel moment est-ce que tu poses un ouvrier. Sachant que le petit truc nouveau de celui-là, c'est que ton adversaire va pouvoir utiliser les bâtiments que toi, tu as construits. Moyennant rémunération, quoi. Mais donc sur des cases, et ça se joue orthogonalement, donc en fonction de là où tu vas poser tes trucs, au tour d'après, ton adversaire va pouvoir lui poser un ouvrier à côté d'un bâtiment que tu as posé, donc du coup bénéficier des ressources, etc. Ou toi, juste pour l'embêter, tu vas pouvoir poser un mec là où il avait créé son petit cluster de petits bâtiments activés.
Et donc, tu sais jamais trop à quel moment poser un truc. Tu es toujours obligé de mettre dans la balance, est-ce que j'avance, je construis. Sachant que, sur 4 tours de jeu, les bâtiments que tu poses vont rester jusqu'à la fin de la partie, alors que tes ouvriers, tu les récupères entre chaque tour. Et donc, là où tu avais posé un gars à tel endroit au premier tour, bah, peut-être que c'est ton adversaire qui va en poser un là au tour d'après pour bénéficier de tel ou tel truc, alors que toi, tu vas te concentrer sur une autre partie du jeu. Ça fonctionne clairement très bien, c'est un jeu de ressources, hein, donc à chaque tour, bah, tu récoltes des ressources, du bois, de l'eau, des poissons, des trucs pour nourrir, machin. Et puis, bah, tu les dépenses au gré des cartes qui sont disposées sur ton plateau, de ce que tu peux construire. Il y a une belle rejouabilité, parce que les cartes qui sortent sont pas forcément les mêmes. Ils préconisent dans la règle que arrivé à un certain niveau de jeu, tu choisisses les tuiles en fait, que tu mets en jeu pour la partie, parce que sinon tu te retrouves vite dans l'impossibilité de faire un de tes objectifs, ou alors ou très vite y a des cartes qui servent un peu à rien parce que t'as pas les ressources suffisantes pour les utiliser. Ça se joue bien, je pense clairement que il y a mieux dans ce type de jeu. Moi je m'en lasserai assez rapidement. Ils ont fait un peu les... Je trouve qu'ils ont fait vachement les paresseux sur le plateau de jeu. Où quand tu le retournes, finalement ça change presque rien. T'as un autre décor de l'autre côté. Je trouve que ça change quasiment rien en fait à l'univers. Il y a pas trop de... Tu vois pas trop où tu peux aller en plus avec ce jeu.
Ce qui aurait été sympa, ça aurait été de pouvoir le customiser, d'avoir des tuiles qu'on aurait pu ajouter peut-être.
Par exemple, c'est une issue possible. Alors ensuite, clairement, par exemple, à deux, bah, t'as très vite fait de construire ton petit cluster de trucs d'un côté, alors que l'adversaire va faire de l'autre, et puis ça peut faire des parties complètement stériles. Donc soit tu viens provoquer ce truc-là, alors que l'autre ne le fait forcément pas. Donc je trouve que le jeu se déploie, il se révèle plus à quatre, quoi. Clairement, où là, tu obliges les interactions finalement, puisque tu te retrouves avec des constructions un peu partout. Donc c'est franchement pas mal. Y a pas de fausses notes dans le jeu, une fois que tu as compris les règles, hein, moi j'avais loupé un truc sur la première partie, comme d'habitude. Mais la partie était jouable, étrangement. Mais avec les vraies règles, ouais, ça tient la route, c'est yellow, quoi. C'est-à-dire que c'est solide. Maintenant, voilà, j'ai pas un coup de cœur, quoi.
Moi j'ai fait qu'une partie aussi à deux, et j'ai eu ce sentiment effectivement que finalement on aurait pu jouer chacun dans notre coin. Et tu sens, enfin, par contre, j'ai pas aimé la partie, mais tu sens que le jeu n'avait pas pris, entre guillemets, son envol. Tu te dis, il manque un joueur, il manque deux joueurs pour qu'on se soit vraiment fun, quoi.
Ouais, parce que sinon, ça peut manquer vraiment d'interaction entre joueurs. Et moi, je déteste ça dans un jeu, quoi.
Jouer chacun dans son coin. Et pourtant, t'as mis un welcome où on joue tous dans son coin.
Ah, mais complètement.
Le style de jeu est différent.
En fait, welcome, clairement, t'as ta feuille devant toi, ça a été pensé pour jouer tout seul dans ton coin. Là, t'as un plateau au milieu qui fédère les gens. Si tu peux jouer tout seul dans ton coin, je trouve que c'est raté.
Ouais.
Ok. Et tu l'as pas essayé, ça?
Moi, je l'ai pas essayé. C'est un jeu qui a fait un petit buzz quand même, dont on a pas mal parlé, mais il me donne pas envie. Donc, je sais qu'il faudra que je l'essaye, parce qu'il faut l'essayer.
Il faudra.
Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un jeu qui m'a donné envie d'y jouer, en tout cas.
On organisera une partie quand même.
Moi, je le trouve assez réussi dans le graphisme et dans le thème. Il me fait penser à The River, mais je le trouve un peu mieux que The River parce qu'il est plus efficace. Il est plus dans la concurrence à condition effectivement d'être 3 ou 4 joueurs.
Alors, moi, The River, on en parlait dans le podcast de la semaine passée sur les films. Il me fait l'effet de certains films, c'est que j'ai joué, je ne m'en rappelle pas du tout.
Ah, ça, c'est
je sais plus ce qu'on a fait, je ne m'en rappelle pas.
Ouais.
Et je sais que j'ai joué. Je sais même pas de quoi ça parle.
Après, je pense que le défaut du jeu, à part ce que tu disais sur la rejouabilité, etc., j'ai cru comprendre, j'ai un peu commencé à le percevoir, c'est qu'on peut creuser l'écart assez rapidement si on chope le bon truc,
les
bons combos.
C'est vrai. C'est vrai.
Alors, on a fait une partie où ça a été équilibré.
Moi, j'aime pas trop ces jeux où tu te rends compte à la moitié de la partie que tu n'arriveras pas à rattraper le mec qui est devant. Et ça, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas assez testé, quoi. Si tu sors en cet état, c'est qu'il y a un problème, quoi.
Et du coup, tu es obligé d'équilibrer. Et tu dis, par exemple, qu'il y a des tuiles qu'il ne faut pas mettre.
Ouais, ça arrive.
Ouais, mais c'est pas à nous, normalement, de rééquilibrer un jeu, quoi.
Oui, alors, mais après, ça permet de sauver le jeu.
J'écoute pas mal de podcasts d'auteurs de jeux de société, des trucs comme ça. Et je ne sais plus quel auteur avait justement expliqué ce biais-là. En gros, que si toi, tu sentais ce biais-là dans un jeu, il fallait te dire que tu avais fait 2 ou 3 parties, alors que les mecs, ils en avaient aligné 150. Et que le biais, en fait, il venait plus de toi que d'eux. Alors, c'était plus argumenté que ça, si tu veux. C'est le mec, il balançait pas comme ça en mode hargneux. l'argument derrière tenait la route, en fait. L'idée, c'est que voilà, vous êtes tombé effectivement dans des configurations, mais vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas le truc. Et si on avait fait différemment, en fait, c'était encore plus marqué, tu vois, j'en sais rien.
Ouais, mais à ce moment-là, tu fais pas.
Non, parce que le problème, c'est que je ne peux pas te ressortir l'argumentaire, mais il y avait un fond sur le D'accord. truc qui tenait la route. C'est vraiment.
En fait, les jeux Monnaie sont faits de manière à ce qu'il y ait une courbe d'apprentissage, et ça marche que si tu joues vraiment beaucoup à ce jeu-là.
Sauf que le marché actuel fait que tu joues de moins en moins.
Bah voilà.
Ouais, je suis d'accord.
En fait, on peut aimer un jeu et n'y jouer que 4 fois.
Ouais.
Absolument. C'est le cas. Ok, merci Glenn pour la présentation de Littleton. Je passe la parole à Sarah qui nous parle de
50 missions. Donc, c'est un jeu qui va vous missionner pour l'été. Et peut-être plus. Il s'agit d'un jeu édité chez Oya, qui sont assez pros du petit jeu familial. Ils ont été notamment As d'Or 2019 avec le jeu The Mind, qui est un jeu coopératif de communication non verbale.
J'adore The Mind.
Ils ont fait Texat et Wanami, qui est un petit jeu très sympa que je conseille. Il est sorti le mois dernier. 50 missions, c'est une belle expérience ludique. C'est un jeu coopératif qui peut se jouer en solo, donc entre 1 et 4 joueurs. Le but est de réaliser donc 50 missions. Pour cela, chacun va avoir 4 cartes en main. Les cartes vont de 1 à 7 et sont de 4 couleurs différentes. Il y a 4 piles formées. À la manière du Uno, chacun va poser à tour de rôle une des cartes sur une des piles, que ce soit le même chiffre ou la même couleur. Il y a 4 missions proposées sur la table. Dès qu'une est réalisée, on en tire une autre. Alors, par exemple, comme mission, il peut y avoir 2 cartes de la même couleur, côte-côte, que les chiffres pairs ou que des chiffres inférieurs à 4, etc. La mécanique est très simple, mais par contre, le challenge est très difficile, notamment suivant le nombre de joueurs. À 4, on arrive à faire quand même des choses. À 2, ça commence à être difficile. En solo, je pense qu'il faut un peu modifier pour y avoir joué. Au lieu d'avoir 4 cartes en main, moi j'ai essayé avec 6 et c'est un peu plus équilibré. Ensuite, il faudra trouver comment communiquer sans dévoiler ses cartes, parce que sans communication, l'échec est assuré. Donc voilà pour 50 missions, c'est un jeu familial accessible, fun, et qui donnera envie d'y jouer encore et encore pour essayer d'atteindre les 50 missions.
Merci.
T'en as réussi combien ?
Pour l'instant, le mieux, c'était à 4 joueurs. On a fait 41 à 2 joueurs, on a réussi, et sinon c'était 40 à 4 joueurs.
On a fait combien, nous, la dernière fois ?
On n'était pas à 30... On était que 30. 31. Non, on a fait que 30.
On a hyper bien démarré, mais on a fait n'importe quoi.
Et on s'est retrouvé bloqué parce qu'on n'a pas assez dit qu'on quelqu'un. Enfin, en fait, c'est là où il faut s'exprimer et dire moi, je peux être bloqué parce que, par exemple, si on a que des cartes vertes en main et que sur la table il y en a plus, il faut éventuellement dire à ses collaborateurs, il faut changer les chiffres ou parce que on peut être bloqué. Donc c'est là où il y a une communication qui se fait et il faut trouver la bonne façon de communiquer pour exprimer.
C'est vrai que c'est une petite entre guillemets difficulté dans le jeu, c'est que t'as le droit de communiquer, mais pas trop. C'est pas The Mind où t'as pas le droit du tout. T'as des choses que en fait t'as pas le droit de dire tes cartes, mais t'as le droit de dire que tu peux pas jouer actuellement ou ce genre de choses.
On peut dire moi donc, je peux aider pour cette mission. Donc ça quand même c'est aux autres de déduire quelles cartes on peut avoir en fait. Donc on n'a pas le droit de dire j'ai un 6 bleu, mais par contre on peut dire moi je veux faire cette mission. Donc après les autres peuvent en déduire que ou on peut dire moi cette mission là je peux pas la faire. Donc ça veut dire
et tu fais les missions dans l'ordre que tu veux.
En fait il y en a 4 sur la table et on fait celle qu'on peut faire. Donc il y en a peut-être qu'on en fera et on en met une nouvelle. Donc il y a toujours 4 missions possibles sur la table.
Et combien de temps dure une partie?
Bah c'est très variable parce que si on est bloqué on peut se retrouver à 3 minutes, mais ça reste des parties courtes, c'est ça qui est intéressant, mais on en refait une. On en fait toujours une derrière. Parce
que... C'est comme The Mind, c'est comme The Crew, c'est des jeux en fait ouais où t'es là pour enchaîner les parties. Et essayer d'améliorer ton score et d'aller un petit peu plus loin quoi. C'est plutôt sympathique, moi j'ai bien aimé là qu'on a joué ensemble. Ce que je reproche au truc, c'est que alors justement bon j'ai essayé de pas faire trop la comparaison, mais quand même, à la différence dans The Crew, il n'y a aucune progressivité dans la difficulté des missions, c'est 100% du hasard, l'ordre des missions, et la difficulté, c'est-à-dire que tu peux tout à fait te vautrer au début, parce que t'as pas ce qu'il faut, et tout d'un coup, au moment où t'es en galère, et que pourtant la fin se rapproche, ça peut devenir très facile, parce que ça coule tout seul. Alors il y a des fois, c'est super sympa, parce que t'es là, ouais, mission, 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 et puis après, pendant 10 minutes, t'es là genre, bah là, on n'y arrive pas, on est bloqué, et la partie, elle va se terminer, quoi. Donc... C'est un jeu d'ambiance, c'est pour ça que ça reste plus un jeu d'ambiance, c'est presque pour moi plus proche d'un double qu'autre chose, parce que enfin d'un
buzzit, un truc comme ça, c'est un Uno collaboratif,
mais il y a pas de stratégie en soi, c'est vraiment je peux ou je peux pas. Donc
mais la communication est vraie, en fait on s'en rend pas compte au début du jeu, et plus, enfin en tout cas à deux joueurs, si on communique pas, ça marche pas, parce que si on n'essaie pas d'aider son le joueur avec qui on joue à faire les choses, ou lui expliquer vers quelle mission aller plutôt qu'une autre, si on communique pas du tout, ça tombe à l'eau, quoi.
Ouais, alors nous, la partie qu'on a fait, on était 4. Alors à part une partie où vraiment un joueur effectivement n'a pas du tout dit qu'il allait être bloqué, donc on s'est fait avoir. J'ai quand même trouvé qu'on communiquait pas mal, puisqu'on disait tout le temps, cette mission-là, je peux la faire. Attention, j'ai plus qu'une seule possibilité, donc il faut pas me bloquer trop à ce niveau-là avec ça. Et malgré ça, on contrôle rien. Alors c'est sympa, tu rigoles, tu bois un coup, et voilà, c'est un jeu à l'apéro, c'est super, mais tu contrôles rien, quoi.
Moi, je le comparais plus à Anabi, en fait, dans le sens où à Anabi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est censé pas communiquer, mais voilà, on va tous aller vers un petit côté triche, et du coup, c'est ça qui va être sympa, et du coup, ça peut jouer vraiment avec tout le monde. C'est là où, moi, on peut le sortir avec les parents, les grands-parents, les enfants, enfin, il n'y a pas de restriction, il n'y a personne qui va dire non, je veux pas jouer, parce que c'est très simple, et du coup, il n'y a pas de règles, donc on le sort très facilement et avec tout le monde. Et ça, c'est un des gros avantages du jeu.
Ouais, non mais ça c'est vraiment, ouais, typiquement, d'ailleurs tu parlais de jeu d'été, t'es en vacances, t'as des copains qui sont passés te voir, qui sont pas joueurs, mais qui veulent bien tenter un truc un peu rigolo, un peu facile, tu sors ça et ça marche, c'est sûr, c'est plus facilement qu'un The Mind qui va rebuter certaines personnes parce qu'on peut pas parler du tout, ou qui va déplaire à d'autres parce qu'ils sont trop calculateurs. C'est vrai qu'il est, plus light. Un petit bémol aussi que j'apporte au jeu, c'est que pourquoi marron ? Il n'est pas beau. Il donne pas envie, quoi. Les jeux d'apéro, ils ont tendance à popper un peu, tu vois, un habit en couleur, un truc comme ça.
Là, t'as 4 et couleurs, là... c'est comme le Uno. Donc, en fait, ils ont fait l'effort de mettre des symboles. Donc, je pense que. Place des chiffres. Donc, chaque couleur, pour, je pense, les gens qui peuvent avoir des problèmes de vision, je pense.
Ouais, niveau inclusif, ouais.
Du coup, à la place des. Enfin, il y a les couleurs, mais en plus, chaque couleur est associée à un symbole. Donc.
Moi, je suis. C'est. Voilà, extérieurement, la boîte, pour moi, elle fait... Mais alors, ça n'a aucun impact sur le jeu, hein, ça vaut rien. Ça fait pas rêver, on dirait une boîte de Rami, quoi.
Et ah, Rami, j'y joue avec ma grand-mère. C'est un petit jeu facile à sortir, facile à installer, qui prend pas de place.
Non, mais oui. C'est, effectivement, avoir dans son sac pour emmener l'été ou pour lancer ou terminer une soirée jeu, nous, on a terminé une soirée jeu avec, et clairement, ça marche bien, ouais. Non, ça marche bien. Tu l'essaieras ?
Je l'essaierai sans doute, mais c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Les jeux d'ambiance, faciles à sortir, collaboratifs, j'ai pas tellement accroché à The Mind, par exemple, ni à Anabi. Voilà.
Ok, merci Sarah pour la présentation donc, de 50 missions. Et puis, il reste moi. Et je vais vous parler... Alors, je vais aller beaucoup plus gros, parce que je vais vous parler de Maracaibo, qui est... on peut le dire, je pense, le gros jeu de gestion du moment.
Grosse sensation qui était... Ouais. Tout le monde avait parlé déjà à Essen l'année dernière au festival.
Une grosse boîte bien remplie, quoi. Donc on parle d'un jeu de stratégie de 1 à 4 joueurs, de Alexander Pfister, qui a notamment fait Great Western Trail, dont a priori Maracaibo hériterait beaucoup, et Isle of Skye. Et quelques autres, mais bon, pour moi, c'est les deux plus connus, quoi. Donc, on est clairement sur un jeu à l'allemande. Donc, c'est-à-dire un jeu qui va viser un public plutôt expert. Pas beaucoup de fight entre les joueurs. On va plutôt être dans du développement et du commerce et ce genre de choses. C'est un jeu à l'allemande, c'est un peu moche. C'est moins moche que d'autres jeux à l'allemande, mais c'est pas une œuvre d'or. Le plateau est correct. Mais voilà. Et pas mal de matos, meeple, cartes, beaucoup de choses de cet esprit-là. C'est édité en France par Super Meeple. Le principe de Maracaibo, on incarne des marins / aventuriers qui vont essayer notamment de se vendre un petit peu plus aux francs en se faisant bien voir par les principales puissances coloniales de l'époque, que sont la France, l'Angleterre et l'Espagne. Donc ça va être le sel du jeu. Le but du jeu, c'est d'être bien vu par ces puissances-là. Donc comment on va faire ? On va se faire bien voir, on va faire du commerce, on va faire de l'exploration, et on va combattre au nom de la puissance. Combattre au sens mécanique du terme, parce qu'on va vraiment pas se combattre entre joueurs. D'accord ? Donc, comment ça se passe ? En fait, on a chacun un bateau qui va naviguer de port en port, pour pour commercer, pour explorer, pour recruter des personnes, je ne me rappelle plus les cartes exactement ce qu'il y avait dessus, quoi. Et donc voilà, donc on a une sorte de piste qui sont les îles autour de Maracaibo, chacune avec plusieurs ports, et on va faire avancer nos bateaux de port en port de la distance qu'on veut, puisque c'est de 1 à 7 cases. La piste doit faire au total, j'en sais rien, peut-être une cinquantaine de cases maxi. Elle n'est pas extrêmement longue.
C'est pas 20 ?
Ah bah non, c'est pas 20, non.
Si, puisqu'on peut aller jusqu'à 23 à la fin.
Ah oui, c'est vrai, on peut aller jusqu'à 23 à la fin. Bonne remarque, ouais. Et du coup, en fait, le sel du jeu quasiment est là. C'est qu'en fait, vu qu'on peut avancer à la vitesse qu'on veut sur ces cases en passant de port en port, et qu'il n'y a qu'une vingtaine de cases, en fait, le jeu se déroule en 4 manches, et une manche peut se terminer très très vite si un joueur décide globalement qu'il va faire que 3 arrêts. Donc si on a un joueur qui fait 7-7-7, en 3 tours, la manche, elle est pliée. Alors que on pourrait avoir tendance à se dire, bah moi je vais m'arrêter dans tous les ports pour faire le plus d'actions possible et engranger le plus de points. Ouais, mais si tu fais ça pendant qu'il y a un mec qui lui va hyper vite...
C'est un peu la mécanique de Tokaido.
Non, parce que Tokaido, c'est toujours là, celui qui est en dernier qui reprend. Donc si quelqu'un va loin, en fait, on peut jouer autant de fois qu'on veut. Donc, tandis que là, à Maracaibo, on peut pas, c'est vraiment au tour de jeu, alors qu'à Tokaido, c'est...
D'accord.
C'est le dernier qui joue, le dernier sur la piste qui va jouer. Donc en fait, il n'y a pas ce
pénalty. Oui, dans Tokaido, il y a une volonté de finir dernier. Quoi. Et là, on l'a vraiment vu sur la partie qu'on avait fait ensemble, de personnes qui avaient essayé de s'arrêter trop et qui, du coup, au final, à la fin, se retrouvent un petit peu désavantagées par rapport à des joueurs qu'on lit. Sachant qu'ils ont quand même contré un petit peu ce mécanisme-là, c'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, en fait, en gros, il y a, selon la manche, une à trois cases sur lesquelles tu es obligé de t'arrêter. Donc quelqu'un qui est à mi-parcours, sachant qu'il sait que tu vas devoir t'arrêter deux fois avant de terminer la manche, si lui, il avait prévu de faire, par exemple, deux, entre guillemets, grandes enjambées, il n'est pas pénalisé. Donc ça, ils ont bien dosé...
On peut réajuster sa stratégie.
Effectivement. On n'est jamais bloqué, on a toujours quelque chose à faire, et on peut réajuster son tir selon le jeu des autres. Donc c'est des parties qui sont données en gros à 2 heures, il faut compter une demi-heure par joueur. Alors nous clairement notre première partie on a mis beaucoup plus de temps, mais on avait une grosse prise en main parce que personne n'avait jamais joué. Je pense que sinon, si on rejouait ou si on rejoue ce soir, je pense qu'en 2 heures, effectivement une demi-heure par joueur c'est tout à fait,
réaliste.
Ouais, alors c'est un peu un des points noirs du jeu, la mise en place c'est quand même assez laborieuse. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Alors après, c'est pareil, selon comment tu connais le jeu et tout, j'imagine que tu vas plus ou moins vite. Mais effectivement, nous, sur la première partie, ça a été un peu laborieux. Donc 2 heures à 4, c'est raisonnable. 4 manches, où la durée va varier. Mais globalement, c'est vrai que ça s'équilibre. Il y a des manches qui vont aller très vite et puis d'autres qui vont prendre un petit peu plus de temps. À partir de 12 ans, alors là, je les trouve peut-être un poil généreux. Moi, j'ai tendance toujours à faire jouer mes enfants à des jeux pour plus grands qu'elles. Et là, même à 12 ans, je trouve qu'il y a des choses dedans qui sont vraiment pas faciles. Le jeu est fluide, il est assez facile à prendre en main. Et par exemple, les combats, même voilà, au bout d'une partie, on galérait encore un peu à les mettre en œuvre. Moi, je dirais 14. Je pense que 12 ans, il faut que vos enfants ils aient vraiment l'habitude de jouer pour prendre en main Maracaibo, quoi. Donc voilà, mon avis... bon, déjà, de base, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment bien, ça faisait quelques temps que je cherchais un gros jeu où vraiment je me dis que ce soit un gros coup de cœur. Alors je pousse le bouchon un peu loin, moi j'ai tendance à le comparer, sans vraiment le comparer, mais à Terraforming Mars, où je retrouve pour moi certaines similitudes, je sais que ça, elle partage pas du tout
pas
cette avis-là.
Pas du tout.
mais en tout cas, pour moi c'est pas loin d'être un aussi gros coup de cœur que Terraforming Mars. J'ai trouvé parce que ça se prend hyper facilement en main, on n'est jamais bloqué, on va jamais détruire le jeu d'un autre, ça passe hyper vite pendant la partie parce que 4 manches c'est hyper court, d'autant qu'on est un peu stressé par le fait que des joueurs décident d'aller encore vite, ben il y a une sorte de d'engouement dans le jeu, on a envie de faire nos trucs, on a envie d'avancer. Donc vraiment j'ai trouvé que c'était passé, même nous sur notre partie qui a dû durer pas loin de 3h30 au final, c'est passé crème comme qui dirait, et je me suis vraiment bien amusé, donc ouais, je lui ai mis un 9 sur 10 à confirmer après une seconde partie, et à confirmer aussi à deux joueurs parce qu'on a joué à 4, voir comment il marche avec moins de monde, mais ouais, pour moi il vaut un peu l'engouement qu'il suscite.
Sarah. Et petite parenthèse, bon, je peux pas donner mon avis, je l'ai pas testé, mais j'avais lu que c'était Legacy.
Alors oui, alors il y a deux modes, il y a un mode normal, nous on avait choisi ce mode-là pour notre première partie, et il y a un mode, effectivement, le jeu, il l'appelle pas Legacy, il doit l'appeler campagne, je crois, où en gros, il est non destructif pour le jeu, et tu vas en fait placer certaines cartes à certains endroits pour faire évoluer le jeu de partie en partie. Alors, on n'a fait qu'une partie pour l'instant, donc non, on ne l'a pas encore essayé. D'accord. Mais je pense que voilà, c'est une bonne façon en plus de faire revenir au jeu, etc.
D'accord.
On le voit de plus en plus, hein, maintenant, des jeux qui vont proposer et un mode normal, et un mode legacy.
Et un mode solo.
Donc ouais, bah celui-là fait vraiment l'ensemble à tester.
Parce que les modes destructifs, ça te plaît plus trop, parce que voilà, c'est...
C'est quand même à contre-temps de notre époque.
C'est ça, donc le but c'est maintenant de mettre les deux, d'essayer de faire un jeu qui fait les deux. Moi, pour avoir testé Maracaibo, une seule partie, c'est un jeu, bon je suis pas toujours grand fan des gros jeux, mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé très intéressant, long, mais la prise en main elle était finalement assez, je vais pas dire simple, mais quand même abordable. Ce que je ressors de cette partie, c'est que j'ai voulu en refaire une autre rapidement parce que je voulais voir d'autres choses, tester d'autres choses. Et sur des gros jeux, c'est pas forcément ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que là, tout de suite, je me suis dit, il faut en refaire une. Il faut concrétiser les règles. Et comme disait Guillaume, c'est pour les combats. C'est vrai que c'est une partie des règles qu'on a eu du mal à mettre en place. Et je pense que et pourtant la mécanique du jeu est basée beaucoup là-dessus, donc je pense que notre deuxième partie sera complètement différente, parce que c'est vrai que le système de combat en fait est vraiment important, et nous c'est vrai qu'on l'a un peu laissé de côté pour notre première partie, et je pense que ça va changer pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai eu mon premier avis, c'était de vouloir y rejouer, de retenter des choses, et voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment, comme on le dit, pas forcément beau, mais qui suscite l'attrait, et je pense que pareil, l'engouement qu'il suscite est justifié.
C'est clairement un jeu qui mélange plusieurs mécanismes et du coup plusieurs axes de victoire. C'est-à-dire que tu vas développer, prendre telle ou telle stratégie et elle va te faire gagner aujourd'hui, mais elle ne te fera peut-être pas gagner la fois d'après. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était sur Little Town, ce biais du joueur qui prend beaucoup d'avance en milieu de partie. On l'a eu en fait sur Maracaibo, parce qu'au milieu de partie j'avais le double de points de tout le monde et tout le monde m'a donné la partie gagnée. Alors dans les faits, certes j'ai gagné, mais j'ai pas gagné avec beaucoup d'avance. Au final, Sarah, tu t'es revenu à 10 points de moi sur la fin, alors que je devais en avoir quasiment 60 à un moment donné, quoi. Donc il y a vraiment cette possibilité d'adapter sa stratégie, de dire tiens, la stratégie qu'il a pris, je vais switcher, je vais la rattraper aussi. Et du coup voilà, t'es pas bloqué, t'as plusieurs axes où aller, et c'est pas la stratégie que tu prends au début alors que t'as jamais joué qui va te bloquer sur tout le reste de la partie, donc ça c'est assez intéressant. Et effectivement, bah, vu qu'il y a plusieurs mécanismes, nous on en a fait peut-être deux dans la dernière partie, on sait qu'il y en a un qu'on n'a pas du tout développé, qui est peut-être une autre façon de gagner, quoi.
Ok. Et Maracaibo, ça s'appelle comme ça parce que c'est une...
C'est un des ports des îles dans lesquelles tu voyages. Un vrai port. Ça existe toujours, Maracaibo.
Oui, je sais. C'était pour savoir si tu savais.
C'est une cité qui est complètement détruite maintenant, si j'ai bien compris.
C'est dans quelle île?
Par là. C'est par là.
À gauche.
Donc,
et ta note?
Donc voilà. Bah, moi, j'ai dit, moi, j'ai... normalement, j'attends deux
parties. Ta pré-note.
Voilà, ma pré-note, là, elle est à 9. Ce que je disais, dans les gros, moi je suis assez fan de gros jeux, dans les gros jeux que j'ai achetés ces derniers temps et auxquels j'ai essayé, ouais, c'est un petit coup de cœur. Ouais.
Et je pense à tester à deux, mais en tout cas les avis disent qu'à deux ça marche aussi très bien, et du coup le jeu est plus court, donc je pense que il doit être très intéressant aussi à sortir à deux.
Moi je sais qu'il sortira là pendant les vacances, j'ai une partie de prévue à deux joueurs, donc j'ai effectivement hâte de le tester. Avec une grosse joueuse aussi, ça va être sympa. Ok, bah merci à vous
merci
pour cette émission, puis on se retrouve prochainement.
Salut.
À bientôt, salut, au revoir.
Salut.